Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous accueillir ce soir à la galerie Mola pour la présentation par Eugène Ebaudet de son dernier roman, Souveraine magnifique, publié dans la collection Continent noir chez Gallimard. Alors Eugène, cela fait 20 ans que nous connaissons, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'il y a un peu plus de 20 ans, le continent africain connaissait une tragédie sans nom, qui est le génocide des Tutsis au Rwanda. Et il se trouve que en 2014, vous publiez un roman qui évoque, par le témoignage d'une rescapée, ces mois épouvantables qui ont commencé le 7 avril 1994 pour terminer en juillet, avec des centaines de milliers de victimes. Et je crois qu'il est bon de rappeler que, en 3 mois, le rythme des morts, rythme des victimes, a été supérieur à tout ce que l'on a vu de pire pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les camps de la mort nazie.
Il y avait 10 000 morts par jour.
Voilà.
Et exécutés à la machette pour la plupart. Donc, un objet plutôt usuel, anodin.
Utilitaire.
Utilitaire, oui, qui s'est transformé en arme de destruction massive.
On peut dire peut-être, si vous en êtes d'accord, nous pouvons dialoguer, alors que dans le contexte épouvantable des camps de la mort est industrielle, ce génocide-là a été un génocide, j'hésite à employer l'expression, de proximité, parce que la machette en Afrique, c'est un outil de tous les jours, on en a à la maison, pour le jardin, pour l'entretien de la maison, c'est quelque chose de très simple.
Oui, mais disons que ce n'est pas, on ne va pas faire dans les concurrences mémorielles en fonction de la manière dont on meurt, que ce soit un bombardement ou une machette, le résultat est le même. Et c'est celui-ci qui nous émeut, qui nous attriste et qui donne à réfléchir. Tout ce qui, on sait déjà depuis Baudelaire, hein, qu'à la fois, il y a des fleurs dans le mal et inversement. Et puis, pour ce qui concerne le génocide des Tutsis au Rwanda, on ne pensait pas qu'une population qui vit ensemble depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, aussi loin qu'on remonte dans le temps, donc qui vit ensemble, et qui vit sur le même territoire, pouvait à ce point introduire en elle l'envie d'éliminer totalement. Et là, de manière, ça on l'a vu, l'élimination totale, donc qui entraîne vers le génocide. Il y en a eu dans l'histoire. C'est aussi l'occasion de les rappeler, de dire que il y a eu celui des Arméniens, tu parlais de 20 ans, les Arméniens c'est 100 ans. Il y a eu celui des Juifs, notamment avec la Shoah. Il y a d'autres qui ne sont pas répertoriés comme tels, les Khmers rouges en ont commis. Et puis on sait que les Indiens ont été décimés. Et à ce que je sache, ce n'était pas une comète qui a abouti à cette destruction d'un peuple amérindien. Et puis, lorsque ce génocide s'est produit au Rwanda, la question qui peut hanter les mémoires, c'est de savoir pourquoi en sont-ils arrivés là et qu'est-ce qui a bien pu se passer. Je suppose que c'est peut-être une question que tu avais prévue.
C'est une question que l'on peut aborder, d'autant qu'il y a toute une série de réactions polémiques autour de celle-ci. Je suis d'accord avec toi pour dire que ces populations sont au Rwanda depuis très longtemps et que, par exemple, l'extériorité des Tutsis au territoire rwandais, c'est une invention du colonisateur allemand. Oui. C'est le Rwanda et le Burundi, il faut le dire pour l'assistance, ont été colonisés d'abord par les Allemands, ensuite les Belges. Et il est clair que les Allemands ont considéré que les Tutsis, ceux qu'on appelle les Tutsis, ceux qui se désignent ainsi, étaient extérieurs à ce territoire et présentaient des caractéristiques à la fois morphologiques, sociologiques, intellectuelles, supérieures au tout.
Donc cela relevait d'une construction intellectuelle qui n'avait rien à voir avec la situation historique et ce qu'ils vivaient, ce que vivaient ces populations. Le congrès de Berlin, c'est 1884-85.
84-85, oui. À cheval sur les deux années.
Sur deux années. Et qui, au fond, se partage l'Afrique. C'est les grandes puissances, hein, les puissances plutôt occidentales. Les Américains y étaient aussi, d'ailleurs, mais eux, ils n'ont pas eu droit au gâteau, si je puis dire, au gâteau africain. Et les Allemands, qui ont donc reçu... dans ce fameux partage, le Rwanda, le Burundi, tu l'as dit, le Cameroun, le Togo, ont donc réalisé sur place une série de... On dit toujours de manière très simple que pour gouverner, il faut diviser. Donc, ils ont essayé de gouverner et de diviser. Et en divisant, ils ont rappelé à leur mémoire des thèses qui étaient plutôt des thèses extrêmement dangereuses et nocives. Si on parle de Gobineau et ses thèses sur la race, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de critères qui sont attribués aux uns et aux autres selon qu'on veut qu'ils soient puissants ou misérables. Et pour les misérables, ce terme a échu au Hutu, donc au Burundi, qui était morphologiquement plus court. Et c'est pour cela que dans le livre, je n'ai pas repris la répartition et la division classique des Hutus et des Tutsis et des Twa, les Pygmées. Donc j'ai retenu les courts, les longs et les très courts. Les courts, donc, je disais, étaient les Hutus. Et les Hutus présentaient une morphologie plutôt un peu disgracieuse, avec... un visage ne correspondant pas au canon esthétique de l'époque ou de M. Gobineau, qui estimait donc les traits très fins des Tutsis, cette fois les longs, les Tutsis, présentaient une morphologie fine. Ils avaient un nez fin, les lèvres bien dessinées. Et donc, ces êtres bien faits, la rhétorique de l'époque est extraordinaire. Ces êtres bien faits étaient destinés à gouverner. Et les autres, qui étaient moins bien façonnés par la main invisible d'Allah, ceux-là étaient voués aux tâches subalternes, pour ne pas dire à une forme d'enfer.
Oui, d'autant plus qu'on a habillé la chose en considérant que les Tutsis avaient des origines nilotiques, qu'ils venaient du Nil, qu'ils étaient descendus, etc.
Ensuite, donc, pour justifier que cette répartition revenait à une source antéhistorique, il a fallu donc leur trouver un territoire qui n'était pas le même, puisqu'ils vivaient là, parlaient la même langue. Il n'y avait pas de distinction du point de vue du langage. Ils parlaient exactement la même langue. Ils n'habitaient pas un territoire distinct de celui des Hutus. Ils vivaient dans le même espace. Et l'imaginaire donc, colonial de l'époque a voulu leur attribuer une origine nilotique, donc plus proche du Nil. Et ce qui a abouti au fait que lorsque les tueries ont commencé, c'était dans l'idée de les faire retourner chez eux. Et par la voie la plus rapide, celle de l'eau, la voie liquide. Mais évidemment, il fallait les renvoyer chez eux en étant réduits à une dimension qui n'était plus la dimension... d'abord, leur intégrité physique n'était plus du tout respectée. Au contraire, on voulait les raccourcir. Donc, il fallait les raccourcir puisque... l'environnement mental, l'environnement intellectuel, tout ce gonflement des idées nocives avait produit dans les têtes des Hutus des choses absolument abominables. Et qui voulaient donc raccourcir ce qui était supposé être long. Or, si on connaît un peu le Rwanda, tous les Tutsis ne sont pas longs.
Bien sûr, et si tu me permets, pour l'assistance, il faut rappeler les choses. Oui. Les Allemands, les colons allemands vont être remplacés par les Belges. Ceci en 1931.
Après la Première Guerre mondiale, la défaite allemande.
Ils imposent sur les cartes d'identité.
C'était en 1931.
La désignation donc de l'appartenance avec tous les guillemets qu'on veut ethnique. Mmh. Donc c'est un élément de discrimination absolument terrible. Et il y a un balancement des colons belges qui, pendant la colonisation, s'appuie, on va dire, je caricature, sur les Tutsis. Et en 59, au moment de l'indépendance, il y a un renversement, je dirais, d'alliance, considérant que ce sera beaucoup plus facile de contrôler la région et le pays si on s'allie avec les plus nombreux, avec les Hutus, alors que pendant plusieurs décennies, on s'est allié avec les Tutsis. Il y a un renversement.
Oui, on s'est allié avec les Tutsis parce que, étant réputés donc les plus fins, les plus aptes à gouverner, l'administration indirecte allemande, puis renforcée par l'administration belge, avait divisé le pays en plusieurs provinces. Et à la tête de ces provinces, pour administrer de manière indirecte, donc ne pas être aux commandes soi-même, on déléguait à ces institutions, à ces localités, des représentants, des chefs plutôt Tutsi, donc aptes à gouverner. Et naturellement, pour la majorité, il faut encore dire que la majorité de la population était Hutu, 80-85% de Hutu, 15 ou 14%, et puis le petit pourcentage restant était composé de Twa, les Pygmées, pour être simple. Et donc l'administration coloniale de l'époque a pour... administrateur délégué des Tutsis. Et ça crée un ressentiment. Ce ressentiment gonfle, en plus parce que, évidemment, la répartition des pouvoirs, à la fois politiques, mais aussi la possibilité d'aller dans les écoles, tout ce qui représente les traits du modernisme, est plutôt facilité du côté des Tutsis. Et il y a un ressentiment qui gonfle chez les Hutus. Ensuite, ce ressentiment, vous parliez de la bascule. Lorsque le pouvoir va être remis au pays, à la fin de la colonisation, les Belges, sentant que le nombre allait pouvoir être décisif, donc le critère démographique, change d'alliance et commence à pencher du côté de ceux qui veulent faire une révolution sociale au Rwanda et qui reprennent des thèses qui, elles, vont préparer la catastrophe, puisqu'il y aura une charte du commandement du bon Hutu, et dans ces chartes, il y a 10 commandements, et on commence à préparer les esprits, à regarder le Tutsi d'une manière peu amicale, et cette manière peu amicale prépare quelque chose qui va être, en 94, épouvantable. Mais en 59, déjà, lorsque les Belges s'apprêtent à partir, commencent d'ailleurs les premiers pogroms qui vont se multiplier 63, 69, 73.
72 avec Habyarimana qui prend le pouvoir, oui. Qui devient président. En fait, entre 59 jusqu'en 94, il n'y a pas une période de paix et de tranquillité. Il y a en permanence des soubresauts avec parfois des milliers, des dizaines de milliers de morts.
De morts, oui. Et puis, des masses de réfugiés qui vont gonfler les réfugiés Tutsi dans les pays voisins. Et ceux qui restent quand même, qui continuent à rester au Rwanda, on se demandait mais pourquoi est-ce qu'ils sont restés. Ben, ils vivaient là, ils n'avaient pas un autre pays. Ils considéraient que ça allait se calmer. On pense toujours que ça va se calmer. Et puis, la mauvaise histoire a continué à dérouler son rouleau compresseur dans les années 90. Et dans les années 90, les Tutsis exilés préparent, ils ont peur de ce qui va se passer. Ils estiment que ce n'est que par l'épreuve de force qu'ils vont plier à Habyarimana et le conduire à partager le pouvoir. Il y a donc les accords d'Arusha auxquels la France participe, ou fin de participer. Et puis... les troupes rebelles, on les appelait ainsi, du FPR, remportent des succès militaires et jusqu'à ce que un avion soit abattu
le 6 avril.
Le 6 avril, oui. Et dès le soir, il y a
les premiers massacres.
Les premiers massacres qui tombent d'ailleurs sur les premiers membres du gouvernement de sur les Hutus modérés, puisque le premier ministre était une femme à l'époque, on l'a oublié. Oui. Le premier ministre était une femme, elle a été abattue, elle était Hutu d'ailleurs. Elle a été tuée, sa famille avec.
Alors, nous venons d'évoquer brièvement l'histoire du Rwanda. Mm. Nous avons évoqué les racines de ce conflit, de ce génocide. J'ai envie de ménager une transition pour parler du roman, dont le ton me paraît tout à fait singulier. Nous l'avons évoqué tout à l'heure. Il me semble que le continent africain, en l'espace de quelques décennies, a connu au moins deux tragédies qui ont été observées par les médias. La première tragédie, elle a été couverte par la photographie. La seconde tragédie, celle du Rwanda, elle a été photographiée par tous les écrans. Et à bien des côtés, ce génocide, c'est le premier peut-être génocide médiatique
en direct, oui.
En direct, où sur les écrans, on voyait à peu près tout. Le premier, c'est le Biafra, qu'on oublie, qui a coïncidé avec un essor du photoreportage considérable. Hein, 1967, les images qui ont bouleversé le monde, cela correspond à cette période-là, les photoreporteurs qui vont là-bas. Bon. Il se trouve que, avec le Rwanda, la communauté internationale a regardé le massacre sans beaucoup réagir, sans même vraiment réagir. Et ce n'est que dans un second temps que des intellectuels, des écrivains africains, d'origine africaine, ont éprouvé ce besoin d'aller sur place, de voir, de comprendre, et ensuite, chacun selon son talent, selon sa plume, selon sa propre histoire, de témoigner. Et dans ce contexte-là, je remarque avec beaucoup d'intérêt que Eugène Baudet, vous avez attendu 20 ans, alors que vous êtes allé au Rwanda bien avant. Vous n'avez pas attendu 2013-2014 pour aller au Rwanda. Mais votre livre, vous ne le publiez que maintenant, avec ce recul, cette distance. Pourquoi ?
Pourquoi je le publie maintenant ? Est-ce que les choses viennent quand elles viennent, si je puis dire ? Mais avant d'aborder le moment, peut-être dire que dans ce que vous avez exprimé en amont sur les deux drames avant celui-ci, ou en tout cas les deux drames, le Biafra et puis celui-ci, l'autre tragédie africaine, c'est, je ne vais pas remonter à l'esclavage, je veux dire, c'est d'abord la négation, l'invisibilité dans laquelle on conçoit généralement l'Afrique. Et à force de ne pas voir que ce sont des hommes avec leur culture, leur mode de vie, et les percevant comme un désert, disons, auquel il faut accoler, donner la civilisation et les habits du modernisme et tout ce qu'on veut, on commet déjà l'irréparable. Il y a quelque chose de dissonant à vouloir considérer l'autre comme n'ayant pas d'histoire. C'est arrivé. Et puis Lévi-Strauss a tranché de manière magnifique, même si après, il faut voir les questions, bien sûr, d'identité, les questions de temporalité. Est-ce que nous vivons, même si nous vivons dans les mêmes périodes, est-ce que l'historicité est regardée de la même façon, même si on va distinguer une histoire chaude ici, froide là-bas, tiède ailleurs. Bref, il me semble que la première des difficultés vient de cette affaire, de ce regard de biais et qui ne considèrent pas l'Afrique telle qu'elle est. C'est d'abord ça. Ensuite, je veux bien adhérer à votre énumération. S'agissant maintenant des conditions dans lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est vrai que j'aurais pu le faire il y a 20 ans, mais je pense, on peut être d'accord, il n'aurait pas eu ni le même ton. Il n'aurait pas pu parler des mêmes thématiques. Par exemple, la gachacha, il y a 20 ans, elle n'était pas...
Il faut expliquer ce que c'est. C'est une juridiction traditionnelle de conciliation dans les villages.
Oui, oui, c'est une instance juridique traditionnelle qui a été qui a volé au secours d'une modernité qui était dépassée. Il n'y avait plus de tribunaux qui pouvaient fonctionner après le génocide. D'abord, le personnel juridique avait été décimé, découpé, tué. Et donc, il n'y avait plus les juges. Ils n'étaient plus là. Et le nombre de prévenus de crimes de génocide était incroyable. On est quand même dans une population. Quelques chiffres. Alors, j'aime pas trop les chiffres. Environ 6 millions d'habitants à l'époque. 1 million sont passés par la machette, par les clous, les gourdins et autres kalachnikovs. 1 million. Là, on reste 5. Il y a 2 millions qui s'enfuient. Il y a 200 000 orphelins qui s'éparpillent dans la nature, qui traînent... Donc vous avez là une situation ingérable. Et dans ce chaos, il y a un pouvoir nouveau qui s'installe, qui est évidemment en tête aussi une forme de revanche politique, si ce n'est une revanche sociale. Ce sont les Tutsis qui majoritairement reprennent le pouvoir, mais ils s'aperçoivent bien vite qu'ils ne pourront pas gouverner uniquement en venant d'Ouganda, de Tanzanie, dans une coalition avec quelques appuis ougandais, pour ne pas les citer. Ils ne pourront pas gouverner un pays alors qu'il y a 2 millions de personnes qui sont dans les forêts du Kivu, qui sont armées pour certaines, les Banyamulenge qui étaient partis, l'armée en déroute, elle-même qui a encore un armement qui lui a été donné par la France, peut-être qu'on évoquera aussi les responsabilités ou co-responsabilités dans cette affaire. Et puis, donc, il faut prendre compte de ces éléments. Et j'ai été invité à écrire par devoir de mémoire.
C'était en 98.
Et en 2000, c'était la restitution des travaux d'écrivains. Donc la plupart ont fait un travail remarquable. Remarquable. Tierno Monenembo, pour ne pas le citer, a écrit L'aîné des orphelins. C'est un texte qu'il a hissé au rang d'écrivain qui lui était un peu chipoté. Pourtant, il avait écrit Les écailles du ciel, Un rêve utile, Pellegrino et que sais-je encore, des textes importants. Et je suis sûr que si Sonny Laboutancy était de ce monde, il aurait été convié à participer à cette entreprise de réparation par les mots ou de pansement d'une histoire tragique par les mots. Il y a eu des femmes aussi qui ont écrit de très beaux textes. Je pense à Véronique Tajo.
L'ombre d'Imana.
L'ombre d'Imana. Imana étant le dieu Tutsi. Et Hutu. Et toi. Parce que les trois avaient eu... C'était un monothéisme, puisque l'Afrique était aussi regardée avec les lunettes déformantes comme étant uniquement la terre de l'animisme. Paganisme, en gros du bordel. Et là, on a un dieu unique, Imana. Et lequel Imana, d'ailleurs, magnifique, est un enfant qui s'appelle Magnifique, peut souvent, c'est arrivé au Rwanda, attirer plutôt les foudres du Dieu créateur. Et résultat, souvent les familles donnaient des noms absolument incroyables, plutôt détestables aux enfants pour que Imana ne puisse pas venir les reprendre. Et donc ici, on a un nom qui a échappé, disons, à Imana, qui quelquefois était aussi un dieu un peu paradoxal. Bref, il y a eu beaucoup de textes, et de très beaux textes, et je les ai lus. Je suis allé au Rwanda en 2000, lorsque les textes étaient restitués. Et à nouveau, on m'a demandé d'écrire, et j'ai dit... Je n'écrirai sûrement pas après avoir vu, maintenant que j'ai vu, maintenant qu'on a sillonné le pays, on est allé à Nyamata, c'est à 35 km de Kigali, on était naturellement à Kigali, on a vu certains sites du génocide, on est allé à Nyamata, une église, et dans l'église, c'était impossible à soutenir, il y avait encore des ossements. On les côtoyait, je voyais des gens d'ailleurs, on était écrivains, touristes, mélangés, je voyais quelques personnes indélicates fourrer dans leurs poches quelques ossements. C'est épouvantable. Enfin, je voyais des choses, je me disais déjà, c'est pas possible. Comment l'être humain peut-il être à ce point oublieux de lui-même et surtout d'une tragédie qu'il vient voir, non sous l'escorte des baïonnettes, mais je suppose par un accord de sa conscience. Mais où passent les consciences humaines ? C'est quelque chose qui m'a dévasté. J'ai visité beaucoup de sites. Et en revenant de cette visite de 2000, j'ai dit, ah, sûrement pas, je n'écrirai rien, rien. Donc, j'ai mis du temps à me faire à cette idée. Je suis retourné plus tard au Rwanda, au Burundi, au Congo. Et puis un jour d'octobre 2013, nous étions à Aix-en-Provence à l'invitation de Paul Constant, non pas pour faire des confidences pour Confidence, ce livre pour lequel elle a eu le Goncourt, mais pour parler de La Rose dans le bus jaune, et après mon précédent roman, et après cette rencontre, nous étions assis au restaurant, et puis Paul Constant voulait savoir mon prochain roman, vous me poserez la question d'ailleurs, je suis sûr. Je lui ai dit, je n'ai pas en tête un prochain. J'ai surtout envie de parler de Rosa Parks. C'est d'ailleurs la réponse que je vous ferai aussi. Je n'ai pas envie de parler d'autre chose. Et sur ces mots, Jean-Noël Stefano, mon directeur littéraire, il dit « Ah, mais il y a un de nos amis qui va écrire pour les 20 ans du génocide l'histoire du vrai génocide au Rwanda. » Et là, j'ai eu quelque chose, je ne sais pas, qui est indéfinissable. Je parle sous le contrôle des médecins, une espèce d'AVC. Enfin, bref.
Bénin.
Oui, mais j'en suis revenu. Et puis, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Donc, tout ce que je sais est faux. On va me parler du vrai génocide. Voilà. Les surenchères vont arriver. On va encore galoper d'absurdité en absurdité. On va, pour s'attirer les bonnes causes des médias, pour parler, pour être à la télévision, etc. Donc j'ai dit non, c'est pas possible. Et le lendemain, j'ai pris la décision d'écrire Souveraine.
Mais si vous me permettez, Eugène, votre roman, titré Souveraine magnifique, m'a donné l'impression, quand je l'ai lu, qu'il présentait des accents shakespeariens. J'avais en tête Macbeth. C'est-à-dire le récit conté par un idiot plein de bruit et de fureur.
Par un idiot, vous avez là un mot.
Je suis un peu sévère.
Sympathique pour moi.
Mais votre, enfin, non, votre narrateur, votre narrateur, c'est quelqu'un c'est, quand même d'assez curieux.
C'est mon double, oui.
Oui. Ça, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un d'assez curieux, votre narrateur, qui est houspillé par votre personnage principal. Les rapports sont parfois tendus. Ils se disent les choses, y compris les choses qui font mal. Et ça, je trouve que c'est un ton tout à fait singulier quand on examine les livres qui rendent compte du génocide. Vraisemblablement parce que vous l'avez écrit 20 ans après et que la distance historique, le temps tout simplement qui s'écoule, permet non pas une mise en scène, mais l'évocation des points de vue. Tout simplement des points de vue qui s'affrontent.
Bien sûr, oui. Quand on écrit 20 ans après, on se demande toujours qu'est-ce qu'on peut rajouter. Et du coup, on s'aperçoit qu'il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, dire ce qui n'a pas été assez exposé. Ce qui n'a pas été assez exposé, c'est par exemple, j'ai découvert là-bas, en allant là-bas, en discutant avec les gens, que il y avait eu des justes. Or, on ne parlait absolument pas de justes. C'est une notion qui est transparente. Comme si il n'y avait eu que des ravages, de la bestialité nue et la mort qui venait avec, et rien d'autre. Or, il y a eu des gens qui ont essayé d'arrêter le malheur, de l'interrompre, de donner asile, de protéger au péril de leur propre vie. Et il me semblait que c'était un silence, une forme d'omerta qui s'expliquait peut-être par une forme d'impensé majeur. C'est un pensé qui ne dit pas son nom parce que je me suis aperçu que c'est juste, c'était des musulmans. Et que les musulmans rwandais, qui forment encore un petit chiffre, 2% de la population, qui est donc à 98%, catholique et enfin chrétienne, parce qu'il y a des protestants.
Oui, il y a des réformés.
Oui. Et que ce petit pourcentage s'était entreposé. Et d'ailleurs, pour comprendre d'où venaient ces musulmans, ils venaient surtout de l'intérieur du pays, ils venaient même des Tutsis et des Hutus. Et la curiosité, c'est que lorsqu'ils changeaient de religion, la religion majoritaire, ils n'étaient plus sous la bannière d'une ethnie ou d'une autre. Ils devenaient musulmans. Et ce qui faisait en sorte que lorsqu'ils intervenaient, ils n'intervenaient plus au titre de Hutu ou de Tutsi. Or, c'était des Rwandais avec quelques autres populations immigrées qui venaient du Sénégal ou des pays...
Dans votre roman, il y a les figures de Sarah et de son époux Souleymane, par exemple.
Oui, c'est des justes. Et j'ai tenu donc à parler de cette population, ou en tout cas de ces acteurs, que l'histoire a passé sous silence.
Il n'empêche que votre personnage principal, Souveraine Magnifique, donc à 8 ans, elle assiste au massacre épouvantable de ses parents. Elle a la vie sauve parce que ses parents l'ont cachée au-dessus d'une armoire et que le criminel ne la voit pas après son méfait commis. Et votre narrateur la retrouve donc 20 ans après. Souveraine Magnifique, à plusieurs reprises, s'adresse au narrateur en lui disant « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que vous venez chercher ?» Et elle le fait avec parfois une certaine violence, une certaine agressivité, il m'a semblé.
Mais elle est née, elle n'est pas seulement née avant le massacre. Il y a une forme de renaissance après. Et elle porte aussi cette violence. Et disons qu'elle n'est plus un être humain, comment dire, des gens qui ont été au plus près de la destruction des leurs et de la destruction des autres. Parce que avant le massacre de ses parents, ils avaient déjà eu des alertes. Elle le raconte, son père le disait. Entre le père et la mère, il y avait des chuchotements pour qu'elle ne se rende pas compte. Et quelquefois, comme tous les enfants, quand elle allait chez les voisins, et qu'elle les reprenait un peu durement, comme un enfant. Elle lui disait, mais tu attention, il ne faut pas leur parler sous ce ton. Ça peut tourner mal, parce que... Mais pourquoi? S'ils me font du mal, je réponds aussi. Comme une enfant, dans l'innocence, disons, de sa conscience et de ses actes. Et rétrospectivement, elle comprend pourquoi le père avait cette attitude, voulait toujours apaiser les choses pour que le moindre prétexte n'enflamme pas la maison. Et ensuite, lorsque ses parents sont tués, se pose à elle en permanence la question de sa survie à elle. Pourquoi a-t-elle échappé? Mais tous ceux qui ont vécu ce type de situation se posent ces questions. Et du coup, il y a une forme de volonté d'autodestruction aussi. Et cette violence qu'elle manifeste, cette forme presque d'insouciance, d'inconscience même par rapport au danger qu'elle court, sa vie a déjà été détruite. Donc elle a une autre âme de secours. C'est probablement cette âme de secours qui la tient encore. En fait, jusqu'ici, tiens, je m'en aperçois. J'ai l'impression que jusqu'ici, on avait une âme. Mais oui, je m'aperçois qu'il y en a une autre de secours qui vient malgré soi quand on a assisté à quelque chose d'aussi tragique.
Ce qui m'a intéressé beaucoup chez ce personnage, elle reste 15 ans au Congo.
Oui. Elle n'aime pas beaucoup les Congolais
Oui,
d'ailleurs, vous
non,
voyez comment elle est.
tout à
Elle
fait.
a un amoureux, mais bon, il aime beaucoup la fête, il aime danser, la rumba. Les Rwandais sont plus réservés, plus pudiques, sont moins expansifs que les Camerounais, enfin, que votre narrateur, idiot.
C'est vous qui dites qu'il vient du Cameroun, il vient du pays des crevettes.
Oui, mais le pays des crevettes, c'est l'autre façon de nommer le Cameroun. Mais je lui dirai au narrateur que vous avez eu à son endroit quelques indélicatesses.
C'est Shakespeare, hein?
Ah oui, je lui dirai que c'est Shakespeare.
C'est Shakespeare.
Ils
Et
régleront ça en brandissant Hamlet et Macbeth. Il y aura un combat.
alors, je crois
D'ailleurs,
qu'il
dans Hamlet, il y a une phrase que mon père aimait beaucoup. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume. C'est quel royaume déjà?
De
Enfin, je
Danemark.
vais de Danemark, tiens.
Et voyez-vous, donc peut-être que je vous ai lu avec une certaine attention, parce que l'esquipit de votre roman, votre personnage dit ceci: Non, je n'ai pas honte de ma vie, mais j'ai quelque chose de pourri au fond de la gorge. Il me semble que, sans vouloir vous flatter, et en étant de nouveau sérieux, il y a une dimension shakespearienne chez vous, il y a Macbeth. Parce que précisément, que de sang, que de sang, que de sang. Et la rescapée me paraît, comment dire, en tant que personnage littéraire, elle me paraît bien plus humaine et charnelle que d'autres personnages que j'ai pu lire. Notamment, elle doute, elle hésite et elle se sent coupable. Si bien que, en lisant votre livre, j'avais pris Molévy en tête. Nous, les survivants, nous ne sommes pas les vrais témoins. Et je pense que Souveraine Magnifique, elle le pense à plusieurs reprises. Et elle le dit, d'où son
Avec
agressivité
ces mots,
avec ses
elle
mots.
n'a pas lu Primo, elle a lu plutôt Diderot, qui est un autre phénomène. Mais vous avez raison, oui. Il y a une dimension, effectivement, je n'avais pas forcément analysé sous cet angle, il y a une dimension shakespearienne, oui.
Il me semble, je ne veux pas vous ennuyer.
Non, non, non. Puisque c'est agréable, là, ça m'ennuie pas du tout, je dirais à mon narrateur.
N'est-ce pas?
Que vous avez eu quelques propos aussi très aimables.
N'est-ce pas? C'est pour tenir la balance égale. Si vous me permettez, votre narrateur, lui, a des propos franchement désagréables à l'endroit de votre personnage et de son pays. Parce qu'il vient du pays des crevettes, et il y a des couleurs qu'il n'aime pas trop. Et il voit dans les rues de Kigali ces couleurs, le bleu foncé et le kaki. Et il dit des choses à votre personnage, à cette rescapée, qui peuvent la mettre en colère.
Non, précisément, il se retient. Il fait une forme de monologue intérieur. Il dit, est-ce que c'est pas possible, moi qui viens du pays des crevettes, du Cameroun donc, chez nous, le bleu, c'est la couleur du deuil. Et notamment, les femmes, les veuves, elles sont affublées de cette couleur pour, oui, pour, comme pour... présenter aux autres le signe d'un chagrin immense. Il faut que ce chagrin soit reconnaissable et qu'elle emporte les couleurs. Et puis, il y a le kaki. Alors, le bleu, c'est la tenue que portent les écolières, les enfants des écoles primaires au Rwanda. Et c'est vrai qu'en voyant, j'ai vu ces couleurs et ça m'a fait un peu cette impression. Donc j'ai prêté ce sentiment au narrateur. Et puis à côté, les garçons portent des vêtements kaki. Et le kaki, c'est la couleur des policiers, donc des gardiens de l'ordre. Et donc il me semblait que, observant le Rwanda avec un regard un peu distancié, il y avait ces deux couleurs qui étaient très présentes. Et le narrateur, qui a des rendez-vous réguliers avec Souveraine Magnifique, se pose la question, est-ce que je lui dis? Et puis il délibère en lui-même et dit non, je ne lui dirai pas que j'ai été choqué par ces deux couleurs qui sont symboliques de ce pays, qui navigue entre la mort et l'ordre.
Alors, vous abordez une question terrible, parce que votre narrateur s'interdit de le dire. Permettez-moi de lire un bref passage de votre Allez-y. Roman. Elle n'a pas été trop prolixe sur ce qu'elle a vu pendant son voyage de retour. Je brûle de lui poser quelques questions. Elle m'enverra peut-être paître, tant pis. Je trouverai bien l'occasion de lui donner mes propres impressions de voyageur, même si je n'ai pas une connaissance exhaustive du pays. Elle vante beaucoup l'ordre qui règne ici, qui serait, allons croire, dans les gènes des populations de ce pays, qu'elles appartiennent aux courts ou aux longs, aux métis ou aux très courts. Ce discours sur l'ordre et la discipline m'exaspère. Je passe et le narrateur arrive à cette conclusion mentale. Avec une jeunesse ainsi accoutrée, le pays me paraît pris entre deux feux, la mort et l'ordre. Le premier, fatalité encore plus imprévisible ici, menace à tout moment. Le second couve un monstre, la dictature. Alors votre narrateur est bien poli, mais l'auteur Eugène Ebaudé, il va fort.
Si je m'en tiens au retour de lecture des Rwandais, plutôt des appels enthousiastes des institutions, disons. Notamment les ambassadeurs, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas un ambassadeur dans cette salle du Rwanda, non, je ne crois pas. Il n'y a pas un consul à Bordeaux. Généralement, partout où je vais, ce soit au Burundi, naturellement, à Genève, à Paris, ils sont présents et ils viennent toujours me voir ou ils m'appellent après pour me dire combien ils ont apprécié. Et le dernier appel de l'ambassadeur du Rwanda, c'était pour... je l'autorisais à faire un commentaire en envoyant le livre au président de la République, Kagame, je dis bien sûr, nous, monsieur l'ambassadeur Jacques Kabalé, vous pouvez absolument écrire ce que vous souhaitez. Je ne suis pas censeur. Et donc, on s'est entretenu de manière très, très chaleureuse. Il m'a dit quelle formule il allait utiliser. Je lui ai dit, le président parle surtout anglais, mais je sais que c'est un homme assez intelligent pour s'exprimer aussi en français et être parfois désespéré par le français que parlent ses compatriotes. Et qui, je sais, par quelques indiscrétions, qu'il est parfois, ses oreilles sont parfois blessées, même si, du point de vue de la politique, ça vous auriez aussi pu relever ma critique sur l'effacement à l'œuvre, dont l'effacement en termes de politique publique, d'une décision de l'État, d'effacement de la francophonie. Ça, j'en parle aussi. Ce qui, c'est pas pour me draper dans les vêtements du grand courageux, non, mais je pense qu'un roman est fait aussi pour dire ce qui n'est pas dit. Et précisément, dans les éléments qui pouvaient motiver ma prise de plume, il y a celui-ci, l'état de la langue française. J'estime que cette langue est rentrée dans un patrimoine par les hasards et parfois même les méfaits de l'histoire, on en a parlé. Mais il fait partie d'un patrimoine qui met du temps à se constituer comme tel et que son remplacement est une forme aussi de désastre pour les locuteurs qui l'utilisent, pour le travail qui a été fait pour l'enrichir, parce qu'il y a aussi Alexis Kagame, un grand savant rwandais qui parlait dans cette langue que nous partageons et que nous utilisons ici. Donc je tenais aussi à mettre l'état de la langue dans un livre de fiction et que ça puisse faire débat.
Je me permets d'indiquer à vos auditeurs que votre narrateur, dans tout le roman, ne se dérobe pas à aucun moment. Il désigne les criminels, mais il désigne les criminels, comment dire, sans aveuglement. C'est-à-dire qu'il refuse de dire « tous les Hutus sont des génocideurs ». Il sait qu'une minorité d'entre eux a été victime des génocideurs. Et de la même façon, ce qu'il voit 20 ans après, quand ça l'agace, quand ça l'irrite, il l'exprime. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un rapport idéologique et il ne restitue pas, en quelque sorte, la parole reconstruite et reconstruite, j'assumerai le terme que j'emploie, des victimes.
Alors, la parole des victimes, on peut s'arrêter quelques instants, mais ce qui m'intéresse, c'est davantage le fait que les personnages s'expriment en toute liberté. Il n'y a pas que le narrateur qui ait un ton libre. Je pense que le criminel l'est aussi. En écrivant, je pense même avoir été le plus épouvanté, si vous me posiez la question. Vous ne l'avez pas fait, mais je vais y répondre. J'ai été le plus épouvanté en écrivant la partie qui concerne le criminel et sa propre défense.
Il s'appelle Modeste Constellation.
Modeste Constellation. La manière dont il se défend, il transforme même son accusation en une réaction accusatrice en retour, qui, pour le coup, avant d'écrire et lorsque ses idées sont venues, puisque nous savons que c'est à la fois un texte cousu à partir d'une réalité et à partir des faits. Cependant, c'est aussi une fiction. Et quand vient la volonté de fiction, on se pose un certain nombre de questions liées à la logique de l'histoire, au ton qu'on va adopter, à l'équilibre des personnages, à leur capacité à suivre une ligne. Or, j'ai eu l'impression que les personnages tels que je les faisais rentrer sur la scène shakespearienne, ça c'est vous qui le dites, donc lorsque je les faisais rentrer, eh bien, ils se dérobaient sous ma plume et ils prenaient leur propre posture. C'était assez fou de le constater. Et je devenais presque le scribe angoissé parce qu'il m'échappait, mais je devenais leur sténographe. Voilà, et me dictait. Et c'est arrivé avec Modeste Constellation. J'avais prévu une défense plutôt molle, des aveux qu'il avait déjà passés. Et pendant la scène du tribunal, le voici regonflé à bloc, se défendant comme bec et ongle, et devenant même accusateur face au juste qui, précisément, Suleiman, qui venait lui apporter la contradiction et surtout brandir des éléments de preuve. Et il se défendait avec une hargne qui me semblait, impossible de ne pas obéir à cette dictée. Cette dictée souterraine des personnages pour le je pense, pour le bonheur du texte.
Et peut-être que cela découle aussi de la façon dont Eugène Ebaudet analyse et perçoit le génocide. J'ai été frappé en lisant votre roman. Ce que vous nous dites, entre autres choses, c'est que les criminels sont des gens d'une extraordinaire banalité. Ce modeste est très lié à la famille qu'il va assassiner. C'est un type bien. Et ce type bien n'est pas un monstre. Il agit comme un monstre. Et je crois qu'on comprend très bien, quand il est mis en accusation, il reste celui qu'il est, le type bien, sans histoire. Et après tout, il se révolte parce que on pourrait accuser d'autres que lui de choses bien pires que ce qu'il a pu commettre. Et s'il sort de ses gonds, c'est parce que c'est un type de tous les jours. Je pense que au cœur de votre roman, il y a cette idée de la banalité du mal.
C'est que le monstre est aussi en nous. Et peut-être au-delà de la banalité du mal, c'est que le monstre est en nous. Et autant je disais tout à l'heure que nous avons une âme de...
Au change. De secours.
Le secours, voilà. Comme on a des roues de secours. Lorsque nos corps sont des véhicules, et je pense qu'il y a une âme de secours. Et nous avons le monstre en nous. Et toute la question est de pouvoir le... Non, c'est pas une question de le domestiquer, mais de le réduire progressivement. Alors, c'est par l'éducation, mais on s'aperçoit que l'éducation ne suffit pas. C'est aussi par une opération... Il y a des médecins, donc je ne vais pas parler d'opération chirurgicale, mais plutôt une opération d'écoute de sa propre conscience sans artifice. Je pense que si Modeste avait écouté sa conscience sans artifice, parce qu'il en brandit quelques-uns, quand il part de chez lui avec la machette que lui ont remis les miliciens, il a une conversation avec sa femme. Or, il n'écoute pas. Il y va, d'ailleurs, comme s'il allait au travail. Comme s'il accomplissait un acte de la vie courante, un acte banal. Et il entre dans cette banalité parce que il... Ah, j'ai utilisé un terme que ma femme me reproche de trop utiliser, il ligote sa conscience. Et ce sont ces garrots permanents que nous mettons et qui ne sont pas faciles. Je ne dis pas que ce sont des opérations faciles. C'est précisément, me semble-t-il, hein, en écrivant Souveraine et en écoutant, en l'écoutant dans nos conversations, en allant au Rwanda, en écoutant même des gens et aussi qui ont été du côté du crime, c'est qu'ils ont ligoté leur conscience.
Vous avez rencontré Souveraine, oui, au Rwanda?
Oui, bien sûr. Et puis, ce n'est pas uniquement de la sténographie. Il a fallu raboter ici, équilibrer là, retenir un certain nombre d'éléments pour soutenir le récit romanesque. Et donc, il y a une part, bien entendu, de vécu, une part aussi d'imagination quand le vécu est trop pauvre. Ben oui, pour faire Shakespeare.
Alors, on ne va peut-être pas dévoiler la fin du roman, mais elle est...
Oh, vous l'avez effleuré déjà.
Oui. Il y a quelque chose qui va réunir le criminel et la rescapée. Pas quelque chose, d'ailleurs, une créature.
Vous avez raison de finir sur cette créature. Je parlais d'âme de secours. Il y a dans le sauvetage des humains, lorsqu'ils sont, et ça arrive, n'y voyez aucune espèce d'allusion à ce que nous traversons, lorsqu'il arrive des moments où on est dépassé, on est débordé, on est presque retiré à soi et qu'on voit flotter... et son corps, et presque peut-être son âme, À quoi peut-on se raccrocher? Sur quoi peut-on adosser ce qu'il reste de vie ou de vue? Eh bien, les Rwandais nous ont montré, et c'était aussi le point de vue que je voulais absolument défendre, si je devais écrire, c'était aussi, j'ai cité les Justes, c'était aussi essayer de montrer comment le monde animal n'est pas si animal que ça. Lorsque les hommes sont descendus au stade que nous connaissons, lorsque Modeste Constellation oublie qu'il est une constellation, oublie donc qu'il est fait de lumière, lorsqu'il descend, bien que modeste, au plus bas des instincts ou du commandement qu'on lui a donné, va détruire une vie ou plusieurs vies, lorsqu'il obéit à cette injonction-là, il n'écoute plus et sa conscience, il n'écoute plus, il n'a plus de repères, il n'est plus ordonné sur les abscisses que votre esprit rationnel connaît et les coordonnées qui conviennent. Il est hors jeu, hors temps, hors monde. Et pour rapprocher, raccorder ce qui a été disjoint et qui a été mis hors du monde, eh bien, les Rwandais ont eu recours aux animaux. L'homme était tombé trop bas. C'était, je ne dirais pas animalisé, puisque ça serait péjoratif. Il était sorti du monde. Qui restait dans le monde? Les animaux. Et ce sont ces animaux qui ont une part de rétablissement de ce qui restait d'humanité. Je ne suis pas sûr que ce soit une réflexion philosophique ou une réflexion qui s'accorde au mouvement environnementaliste. Mais il me semblait que les Rwandais avaient une leçon à nous donner. Alors, dans les temps qui vont venir, peut-être devrons-nous préparer les troupeaux de vaches, parce que les temps de vacherie, et cette fois avec un terme qui a une autre sonorité, sont devant nous. Et je pense que j'écrirai à mes amis rwandais pour qu'ils nous préparent quelques vaches pour venir nous sauver.
Alors effectivement, vous verrez que la vache joue un rôle important parce qu'elle permet de retisser du lien entre le criminel et la rescapée, et qu'en même temps, la vache est juste puisqu'elle donne davantage de lait à la rescapée qu'au criminel.
Oui, elle essaye d'établir cette justice, une justice un peu déséquilibrée du reste. Parce que le criminel a été jugé par les hommes, mais la vache considère que le jugement des hommes est un jugement d'opportunité. Ils l'ont fait pour continuer à vivre, eux, ensemble. Mais la véritable justice est plus que cela. Lorsque la justice des hommes a tranché, on estime que, et que la peine a été accomplie, on efface tout. Et la vache continue en souterrain à être une autre mémoire de sauvegarde. Parce qu'on ne sait jamais si ça va redéraper. Donc le statut, disons, du criminel se prolonge. Il faudrait peut-être que je fasse un deuxième tome, mais je ne le ferai pas.
Vous m'empêchez de vous poser ma question, alors, sur le prochain livre.
Pour voir jusqu'où la vache va estimer que maintenant, l'équilibre est à nouveau rétabli et qu'elle peut donner autant de litres de lait lorsque c'est le criminel qui vient la traire que lorsque c'est souveraine qui se présente pour ce travail, ou en tout cas pour cette mission d'aller recueillir du lait. Et la vache, effectivement, puisque Gachacha, le tribunal, ce n'est pas une invention shakespearienne, c'est la réalité lorsque les les criminels étaient jugés, ceux qui étaient passés aux aveux et qui pouvaient donc être justiciables auprès de la Gachacha, du tribunal coutumier. Ces tribunaux avaient pour fonction à la fois, bien sûr, de juger, de trancher, mais aussi d'essayer de réconcilier. De réconcilier la victime et son bourreau, ce qui était une tâche énorme, puisqu'ils sont presque condamnés à vivre sur le même territoire, côte à côte. Il n'y avait pas de mesure d'éloignement. On aurait éloigné tout le pays. Allez-y au Congo, foutre encore le bazar. Il y a déjà assez de bazar là-bas, mais enfin, un bazar supplémentaire, ça ne nuirait à rien. Non, il fallait vivre ensemble. Et les Gachacha offraient donc soit une vache, comme je le raconte, ou une terre à cultiver ensemble. Une terre à cultiver ensemble. Peut-être que si j'avais un récit supplémentaire pour répondre à votre question informulée, j'écrirais sur la terre qui doit produire et je ne sais pas ce que ça donnerait. S'il y aurait une parcelle qui produit pour la criminelle et une autre qui reste sèche, en disant, enfin, une partie qui produit pour la rescapée et une autre pour le criminel, en disant, tu n'auras rien de moi.
Au nom de tout le monde, je vous remercie vivement, Jeannet Baudet, d'être venu à Bordeaux nous présenter ce livre très riche, très intéressant et passionnant. Merci à vous et merci pour cette souveraine magnifique.
Moi, je pars avec un grand cadeau, c'est Shakespeare. Donc, j'ai pas fait le voyage pour rien. Et merci pour les oreilles que vous nous avez prêtées. J'espère simplement que je ne les ai pas abîmées. Je sais que Jean-Michel a été très précautionneux, moins bavard. Il m'a laissé tout le temps de pouvoir m'exprimer et merci.
Merci.